Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Feuilleton en 10 épisodes. Adaptation et réalisation, Cédric Ossir. 10e épisode. Au désespoir, les deux filles du père Goriot sont venues lui confier leurs déboires conjugaux et financiers. Impuissant et terriblement affecté par les malheurs de ses filles, le pauvre vieillard tombe malade. Il est soigné par l'ami Bianchon, étudiant en médecine. Tandis qu'au bal du boulevard Saint-Germain, Madame de Beauséant fait ses adieux au monde et abandonne Rastignac à la tristesse de ses désillusions.
Le lendemain, Rastignac fut éveillé sur les 2 heures après-midi par Bianchon qui, forcé de sortir, le pria de garder le père Goriot dont l'état avait fort empiré pendant la matinée.
Eh bien, papa.
Goriot leva sur Eugène des yeux ternes et le regarda fort attentivement sans le reconnaître. L'étudiant ne soutint pas ce spectacle. Des larmes humectèrent ses yeux.
Dieu, mais ses filles. Il ne pense qu'à ses filles. Il m'a dit plus de 100 fois cette nuit. Elle danse, elle a sa robe. Il me faisait pleurer. Je descendirai à Sylvie de préparer les sinapismes. Le moment est favorable.
Rastignac resta seul près du vieillard, assis au pied du lit, les yeux fixés sur cette tête effrayante et douloureuse à voir.
Madame de Beauséant s'enfuit. Celui-ci se meurt. Les belles âmes ne peuvent pas rester longtemps en ce monde. Comment les grands sentiments s'allieraient-ils en effet à une société mesquine, petite, superficielle?
Les images de la fête à laquelle il avait assisté se représentèrent à son souvenir et contrastèrent avec le spectacle de ce lit de mort.
C'est vous, mon cher enfant.
Allez-vous mieux?
Elles vont venir bientôt. Elles accourront aussitôt qu'elles me seront malades. Elles m'ont tant soigné, rue de la Jussienne.
J'entends Christophe, il vous monte du bois. Oui.
Bon, mais comment payer le bois? J'ai tout donné, et tout.
La robe lamée était-elle belle au moins?
Merci, Christophe. Dieu vous récompensera, mon garçon. Bah, je n'ai plus rien.
Je te paierai bien, toi et Sylvie.
Mes filles vous ont dit qu'elles allaient venir, n'est-ce pas? Christophe, vas-y encore, je te donnerai 100 sous. Dis-leur que je ne me sens pas bien, que je voudrais les embrasser une fois encore, avant de mourir. Vas-y. Je ne voudrais pas mourir, pour ne pas les faire pleurer. Mourir, mon bon Eugène, c'est ne plus les voir. Pour un père, l'enfer, c'est d'être sans enfant. J'ai déjà fait mon apprentissage depuis qu'elles sont mariées. Mon paradis était rue de la Jussienne. Je les prenais sur mes genoux. Je leur faisais 1000 agaceries. J'étais père. Je jouissais de mes enfants. Elles ne raisonnaient pas. Elles ne savaient rien du monde. Elles m'aimaient bien. Oh, mon Dieu, pourquoi ne sont-elles pas toujours restées petites? Oh ah, voyez-vous, il faut me guérir parce que il leur faut de l'argent. Et je sais où aller en gagner. J'irai faire de l'amidon en aiguille. À Odessa, je gagnerai des millions. Oh, je souffre trop.
Un léger assoupissement survint et dura longtemps. Christophe revint. Rastignac, qui croyait le père Goriot endormi, laissa le garçon lui rendre compte à haute voix de sa mission.
Aucune de ses filles ne viendrait.
Je le savais! Il faut mourir pour savoir ce que c'est que des enfants. Mon ami, ne vous mariez pas. N'ayez pas d'enfants. Vous leur donnez la vie, ils vous donnent la mort. Non, elles ne viendront pas. Je sais cela depuis 10 ans. Je me le disais quelquefois, mais je n'osais pas y croire. Si je ne leur avais pas donné ma fortune, elles seraient là, hein, elles me lécheraient les joues de leurs baisers. L'argent donne tout, même des filles. Si vous saviez comme elles étaient aux petits soins pour moi dans les premiers temps de leur mariage. Le monde n'est pas beau. J'ai vu cela, moi. La société, le monde roule sur la paternité, tout croule si les enfants n'aiment pas leur père. Oh. Mais elles ne savent donc pas ce que c'est que de marcher sur le cadavre de son père. Tout est de ma faute. Je les ai habituées à me foulir aux pieds. Je leur ai toujours permis de satisfaire leurs fantaisies de jeunes filles. Moi seul suis coupable, mais coupable par amour. Oh, je veux mes filles. Je les ai faites. Elles sont à moi.
Alors, recouchez-vous, mon bon père Goriot. Je vais leur écrire. Aussitôt que Bianchon sera de retour, j'irai si elles ne viennent pas.
Voilà ma récompense. L'abandon. Oh, ce sont des infâmes, des scélérates. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. Dites-leur donc que ne pas venir, c'est un parricide. Je les abomine. Je les maudis. Je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les remaudire. Quand enfin, mes amis, ai-je tort? Elles se conduisent bien mal, hein? Oh mon Dieu, j'expire, je souffre. Oh, coupez-moi la tête.
Christophe, allez chercher Bianchon et ramenez-moi un cabriolet. Je vais aller chercher vos filles, mon bon père Goriot. Je vous les ramènerai.
De force, de force! La justice est pour moi. Dites au gouvernement, au procureur du roi, qu'on me les amène, je le veux!
Mais vous les avez maudites.
Oh, mais vous savez bien que je les aime. Je les adore. Je suis guéri si je les vois. Oh, à boire. Mes entrailles me brûlent.
Buvez ceci.
Comprenez-vous que je vais mourir sans les voir, mes filles?
Vous allez les voir.
Les voir. Et
je... Il tomba la tête sur l'oreiller comme s'il recevait un coup de massue. Ses mains s'agitèrent sur la couverture comme pour prendre les cheveux de ses filles.
Je les bénis. Bénis.
J'ai rencontré Christophe, il va t'amener une voiture.
Puis l'élève en médecine regarda le malade, lui souleva de force les paupières et les deux étudiants lui virent un œil sans chaleur éterne.
Il ne reviendra pas, je ne crois pas. La machine va toujours, mais dans sa position, c'est un malheur. Il vaudrait mieux qu'il mourût.
Parfois, oui.
Dis donc, il va falloir bien des choses. Ou prendre de l'argent.
Tiens, ma montre. Mais la vie t'engage. Je ne veux pas m'arrêter en route, car j'ai peur de perdre une minute. Ce n'est pas un liard, il faudra payer mon cocher au retour.
Rastignac partit pour aller rue du Helder chez Madame de Restaud. Il la trouva noyée de larmes et plongée dans une bergère comme une femme qui voulait mourir. Elle lui fit pitié. Avant de regarder Rastignac, elle jeta sur son mari de craintifs regards qui annonçaient une prostration complète de ses forces écrasées par une tyrannie morale et physique.
Monsieur, dites à mon père que s'il connaissait la situation dans laquelle je suis, il me pardonnerait. Dites-lui que je suis irréprochable envers lui, malgré les apparences.
Eugène salua les deux époux en devinant l'horrible crise dans laquelle était la femme et se retira stupéfait. Il courut chez Madame de Nucingen et la trouva dans son lit.
Je suis souffrante, mon pauvre ami. J'ai pris froid en sortant du bal. J'irai dès que mon médecin sera venu. Pourquoi n'avez-vous plus votre montre? Eugène, si vous l'aviez déjà vendue, perdue, cela serait bien mal.
Vous voulez savoir? Votre père n'a pas de quoi s'acheter le linceul dans lequel on le mettra ce soir. Votre montre est en gage. Je n'avais plus rien.
Delphine sauta tout à coup hors de son lit courut à son secrétaire, y prit sa bourse, la tendit à Rastignac. Elle sonna et s'écria
« J'y vais, Eugène. Laissez-moi m'habiller. Allez, j'arriverai avant vous. Thérèse, dites à monsieur de Nucingen de monter me parler à l'instant même. »
Eugène, heureux de pouvoir annoncer au moribond la présence d'une de ses filles, arriva presque joyeux rue Neuve-Sainte-Geneviève. Il trouva le père Goriot, maintenu par Bianchon et opéré par le médecin. On lui brûlait le dos avec des moxas, dernier remède de la science, remède inutile.
Eugène, elles viennent, n'est-ce pas?
Oui, Delphine me suit.
C'est, il n'y a plus rien à faire. On ne le saura pas. Il faudrait cependant le changer de linge. Quoi qu'il n'y ait aucun espoir, il faut respecter en lui la nature humaine.
Bien.
Bianchon.
Oui.
S'il se plaignait encore, mettez-lui de l'opium sur le diaphragme.
Merci, docteur. Allons, Eugène. Du courage. Il s'agit de lui mettre une chemise blanche et de changer son lit. Va dire à Sylvie de monter des draps et de venir nous aider.
Eugène descendit et trouva Madame Vauquer occupée à mettre le couvert avec Sylvie. Au premier mot que lui dit Rastignac, la veuve vint à lui.
« Mon cher monsieur Eugène, vous savez tout comme moi que donner des draps à un homme en train de tortiller de l'œil, c'est les perdre. D'autant qu'il faudra bien en sacrifier un pour le linceul. Ainsi, vous me devez déjà 144 francs, mettez 40 francs de draps et la chandelle que Sylvie vous donnera, tout cela fait au moins 200 francs qu'une pauvre veuve comme moi n'est pas en état de perdre. Dame, soyez juste, monsieur Eugène. Je suis bien assez perdue depuis 5 jours que le guignon s'est logé chez moi. Enfin, mettez-vous à ma place. Mon établissement avant tout, c'est ma vie à moi. »
Eugène remonta rapidement chez le père Goriot.
« Bianchon, l'argent de la montre ?»«
Il est là, sur la table. Il en reste 360 et quelques francs. J'ai payé sur ce qu'on m'a donné tout ce que nous devions. La reconnaissance du monde-piété est sous l'argent. »
Tenez, madame, soldez nos comptes.
Sylvie, donnez les draps et allez aider ces messieurs là-haut.
Bien, madame.
Vous n'oublierez pas Sylvie. Voilà 2 nuits qu'elle veille.
Dès que Eugène eut le dos tourné, la vieille courut à sa cuisinière.
Sylvie, prends les draps retournés. Pardieu, c'est toujours assez bon pour un mort.
Eugène, qui avait déjà monté quelques marches de l'escalier, n'entendit pas les paroles de la vieille hôtesse.
Allons, passons-lui sa chemise. Tiens le droit.
Eugène se mit à la tête du lit et soutint le moribond, auquel Bianchon enleva sa chemise, et le bonhomme fit un geste comme pour garder quelque chose sur sa poitrine et poussa des cris plaintifs et inarticulés à la manière des animaux qui ont une grande douleur à exprimer.
Il veut une petite chaîne de cheveux et un petit médaillon que nous lui avons ôté tout à l'heure pour lui poser ses moxas. Elle est sur la cheminée.
Eugène alla prendre une chaîne tressée avec des cheveux blonds cendrés. Il lut d'un côté du médaillon Anastasie et de l'autre Delphine. Les boucles contenues étaient d'une telle finesse qu'elles devaient avoir été prises pendant la première enfance des deux filles. Lorsque le médaillon toucha la poitrine du vieillard, son visage convulsé prit une expression de joie maladive.
« Merci, Fifine. »
Il vit encore.
« À quoi ça lui sert-il ?»«
À souffrir. »
Trompé sans doute par les larmes, Goriot usa ses dernières forces pour étendre les mains, rencontra de chaque côté de son lit les têtes des étudiants, les saisit violemment par les cheveux et l'on entendit faiblement
« Mes anges !»
deux mots, deux murmures accentués par l'âme qui s'envola sur cette parole.
« Pauvre cher homme !»
Le dernier soupir du père Goriot devait être un soupir de joie. Ce soupir fut l'expression de toute sa vie. Il se trompait encore.
« Il va rester ainsi quelques heures et mourra sans que l'on s'en aperçoive. » Il ne râlera même pas. Je
Le cerveau doit être complètement en veille.
En ce moment, on entendit dans l'escalier un pas de jeune femme haletante.
Elle arrive trop tard.
Ce n'était pas Delphine, mais Thérèse, sa femme de chambre.
Monsieur Eugène, il s'est élevé une scène violente entre monsieur et madame à propos de l'argent que cette pauvre madame demandait pour son père. Elle s'est évanouie, le médecin est venu, il a fallu la saigner.
Assez, Thérèse. Elle viendrait que maintenant, ce serait superflu. Monsieur Goriot n'a plus de connaissance.
Vous n'avez plus besoin de moi. Faut que j'aille à mon dîner, il est 4h30.
Sylvie faillit se heurter sur le haut de l'escalier avec madame de Resto. Ce fut une apparition grave et terrible que celle de la comtesse. Elle regarda le lit de mort, mal éclairé par une seule chandelle, et versa des pleurs en apercevant le masque de son père où palpitaient encore les derniers tressaillements de la vie.
Pardonnez-moi, mon père. Vous disiez que ma voix vous rappellerait de la tombe. Eh bien, revenez un moment à la vie pour bénir votre fille repentante. Hélas, pour qui ai-je trahi le seul cœur où j'étais adorée? Je l'ai méconnue. Je l'ai repoussée. Je lui ai fait mille maux. Infâme que je suis.
Madame de Resto ayant manifesté le désir de garder son père, Eugène descendit pour prendre un peu de nourriture. Les pensionnaires étaient déjà réunis.
Eh bien, il paraît que nous allons avoir un petit mortorama là-haut.
Charles, il me semble que vous devriez plaisanter sur quelques sujets moins lugubres.
Nous ne pourrons donc plus rire ici.
Eh bien, il sera mort comme il a vécu.
Mon père est mort !
À ce cri terrible, Sylvie, Rastignac et Bianchon montèrent et trouvèrent madame de Resto évanouie. Après l'avoir fait revenir à elle, ils la transportèrent dans le fiacre qui l'attendait. Eugène la confia aux soins de Thérèse, lui ordonnant de la conduire chez madame de Nucingen.
Allons, messieurs, à table, la soupe va se refroidir.
Que faut-il faire maintenant ?
Je vais fermer les yeux et je l'ai convenablement disposé. Quand le médecin de la mairie aura constaté le décès que nous irons déclarer, on le coudra dans un linceul et on l'enterrera.
Il ne flairera plus son pain comme ça.
Sacre bleu, messieurs, laissons donc le père Goriot. Un des privilèges de la bonne ville de Paris, c'est qu'on peut y naître, y vivre, y mourir sans que personne fasse attention à vous. Profitons donc des avantages de la civilisation. Que le père Goriot soit crevé, tant mieux pour lui. Si vous l'adorez, allez le garder et laissez-nous manger tranquillement, nous autres.
Ce fut la seule oraison funèbre d'un être qui, pour Eugène, représentait la paternité. Avant de se coucher, Rastignac écrivit un mot au baron de Nucingen et au comte de Resto en les priant de pourvoir à tous les frais de l'enterrement. Le lendemain matin, Bianchon et Rastignac furent obligés d'aller déclarer eux-mêmes le décès qui, vers midi, fut constaté. 2 heures après, aucun des deux gendres n'avait envoyé d'argent. Personne ne s'était présenté en leur nom et Rastignac avait été forcé déjà de payer les frais du prêtre. L'étudiant en médecine se chargea de mettre lui-même le cadavre dans une bière de pauvre qu'il fit apporter de son hôpital où il l'eut à meilleur marché.
Fais une farce assez drôle là. Va acheter un terrain pour 5 ans au Père Lachaise et commande un service de 3e classe à l'église et aux pompes funèbres. Si les gendres et les fils refusent à te rembourser, tu feras graver sur la tombe C.J. Monsieur Goriot, père de la comtesse de Resto et de la baronne de Nucingen, enterré aux frais de 2 étudiants.
Eugène ne suivit le conseil de son ami qu'après avoir été infructueusement chez monsieur et madame de Nucingen et chez monsieur et madame de Resto. Après avoir fait toutes ces dispositions, l'étudiant revint vers 3 heures à la pension bourgeoise et ne put retenir une larme quand il aperçut à cette porte bâtarde la bière à peine couverte d'un drap noir posée sur 2 chaises dans cette rue déserte. C'était la mort des pauvres, qui n'a ni faste, ni suivant, ni amis, ni parents. Bianchon, obligé d'être à son hôpital, avait écrit un mot à Rastignac pour lui rendre compte de ce qu'il avait fait avec l'église. Au moment où Eugène achevait de lire le griffonnage de Bianchon, il vit entre les mains de Madame Vauquer le médaillon à cercle d'or où étaient les cheveux des deux filles.
Comment avez-vous osé prendre ça ?
Pardi, fallait-il l'enterrer avec ?
C'est en or.
Certes, qu'il emporte au moins avec lui la seule chose qui puisse représenter ces deux filles.
Quand le corbillard vint, Eugène fit remonter la bière, la décloua et plaça religieusement sur la poitrine du bonhomme une image qui se rapportait à un temps où Delphine et Anastasie étaient jeunes, vierges et pures, et ne raisonnaient pas, comme il l'avait dit dans ses cris d'agonisant. Rastignac et Christophe accompagnèrent seuls, avec deux croque-morts, le char qui menait le pauvre homme à Saint-Étienne-du-Mont, église peu distante de la rue Neuve-Sainte-Geneviève.
Oui, monsieur Eugène, c'était un brave et honnête homme. Il n'usait à personne et n'a jamais fait de mal.
Les deux prêtres, l'enfant de cœur et le bedeau, vinrent et donnèrent tout ce qu'on peut avoir pour 70 francs, dans une époque où la religion n'est pas assez riche pour prier gratis. Le service dura 20 minutes. Au moment où le corps fut placé dans le corbillard, deux voitures armoriées, mais vides, celle du comte de Restaud et celle du baron de Nucingen, se présentèrent et suivirent le convoi jusqu'au Père Lachaise. À 6 heures, le corps du Père Goriot fut descendu dans sa fosse, autour de laquelle étaient les gens de ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut dite la courte prière due au bonhomme pour l'argent de l'étudiant. Quand les deux fossoyeurs eurent jeté quelques pelletées de terre sur la bière pour la cacher, ils se relevèrent et l'un d'eux, s'adressant à Rastignac, lui demanda leur pourboire. Eugène fouilla dans sa poche et n'y trouva rien. Il fut forcé d'emprunter 20 sous à Christophe. Ce fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse. Le jour tombait, un humide crépuscule agaçait les nerfs. Il regarda la tombe et y ensevelit sa dernière larme de jeune homme, cette larme arrachée par les saintes émotions d'un cœur pur, une de ces larmes qui, de la terre où elle tombe, rejaillissent jusque dans les cieux. Il se croisa les bras, contempla les nuages, et, le voyant ainsi, Christophe le quitta. Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement couché le long des deux rives de la Seine où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots grandioses.
À nous deux maintenant.
Et pour premier acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac alla dîner chez Madame de Nucingen.
Le Père Goriot, d'Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossire. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. 10e épisode. Avec Michel Vuillermoz, Lionel Lingelser, Jean-Claude Frissung, Marie Crémer, Pauline Chevillé, Christine Murillo, Léo Dussolier, Arnaud Churin, Jean-Claude Bonifay, Hortense Mont-Saint-Jean, Henri Alexandre, Ismaël Ruggiero, Christophe Desposti, Stéphane Sestac et Françoise Gaziot. Bruitage, Élodie Fiat. Musique originale, Manuel Peskin. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Victoria Asper. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.